Il a été le premier programmateur musiques actuelles au Pharos à Arras, passé ensuite par le Théâtre d'Arras, le Printemps de Bourges. Ancien directeur du Grand Mix à Tourcoing et de l'Aéronef à Lille, Patrice Budzinski nous a quittés lundi matin. Bud, c'était un compagnon de route, un copain de PFM et de plein de gens qui s'intéressent au rock, au rap, à tout le reste, ici et un peu partout dans la région. Dans cette émission, on entendra une archive de 2008, un entretien avec Patrice Budzinski. Avant ça, on vous propose d'écouter le témoignage d'un de ses copains, quelqu'un pour qui la rencontre avec Bud a été très importante dans son parcours. On est en communication par internet avec Mathieu Drouet. Salut Mathieu.
Bonjour, ça va ?
Ça va. Arrajois, Mathieu Drouet, tu es quoi aujourd'hui toujours photographe professionnel, tu habites du côté de Valence en Espagne, c'est ça?
Alors ouais, je suis arrajois, enfin je viens d'un petit village à côté d'Arras, Monchy-le-Preux. Il faut toujours parler de son village d'origine, c'est bien. Oui, je vis à Valence et je suis photographe et je travaille dans les nouvelles technologies.
À côté de ça, tu es aussi, c'est pas accessoire du tout, webmaster du site de Radio PFM. Avec toi, on évoque le souvenir d'un copain, Patrice Budzinski, Bud pour les intimes. Comment tu l'as rencontré, toi? Je pense que tu étais au lycée quand tu l'as croisé d'abord.
Ouais, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, j'étais en seconde, et un ami du lycée Gambetta m'a parlé de Patrice, et donc on a commencé à se téléphoner, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'email, et à se voir pour parler de photos, et il m'a demandé de venir documenter toute la programmation qu'il y avait à l'époque sur Arras et au Pharos. Donc j'ai eu la chance d'être mentoré par Patrice, qui m'a permis de faire à peu près ce que je voulais en termes de photos, et d'apprendre finalement le métier, quoi.
Lui était programmateur pour le Pharos et toi, donc tu commençais, tu étais photographe amateur finalement.
Ouais, j'avais 16 ans, j'étais censé faire des bouillantes études au lycée. Et donc le deal que Patrice a fait avec mes parents à l'époque, c'était tous les 15 jours, je venais au Pharos. J'étais accompagné par un animateur de la Maison pour tous qui s'appelle Laurent, qui est malheureusement aussi décédé, qui nous a formé sur un peu la vidéo et la photo. Et donc, il y avait des captations des concerts et des photos qui étaient faites au même moment.
Par ce biais-là, tu as pu rencontrer beaucoup de groupes, voir beaucoup de concerts. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là et comment elle t'a marqué?
En fait, c'est quand, bon là, depuis hier, il y a beaucoup d'hommages sur la carrière de Patrice et souvent les Arrajois parlent des concerts de l'écurie Discord avec Fugazi, Girls Against Boys. Mais finalement, moi, j'ai pas connu ça, je suis arrivé après. Et moi, ce que je retiens de cette période-là, c'était que Patrice, il était en harmonie avec l'action sociale qui était mise en place à la MJC. Et en fait, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que les plus gros noms du rap français de l'époque sont venus jouer à Arras. Donc moi, c'est pas Fugazi qui m'a marqué, mais c'est De Balles de Nègre, Les Sages Poètes de la Rue et NTM. Et en fait, sans faire de l'action sociale au rabais, Patrice, et en tout cas le Pharos à l'époque, était en il y avait une vraie cohésion entre le quartier et la salle. Je rappelle des non-tropos qui avaient été en résidence pendant une semaine dans les quartiers ouest, où ils ont fait une procession déguisée en bonne sœur dans tout le quartier. Et c'était un peu surréaliste, quoi. Et c'était le genre de truc que Patrice aimait bien faire, quoi. Il y avait vraiment une vraie synergie entre la salle et le quartier. Je pense malheureusement que ce genre de situation n'existe plus trop actuellement. En tout cas, j'ai l'impression que les SMAC en France, elles sont moins intégrées au quartier dans lequel elles sont situées, quoi.
Peut-être aussi parce que lui était avant tout un travailleur social, avant d'être professionnel de la culture, non?
Oui, c'est ça, il était animateur social. Alors, ça a sûrement influencé après mon parcours, parce que moi, je suis devenu formateur dans une école de travail social. Et donc, c'était des diplômes qui étaient réservés aux personnes qui n'avaient pas de bac. Et Patrice était issu de la filière éducation populaire, et c'était le meilleur exemple de ce que c'était l'action culturelle et l'action sociale, quoi. Et ça l'a dans tous les postes qu'il a occupés, il a toujours essayé de garder ça en tête, quoi.
Alors, avec lui, donc, tu as pris beaucoup de photos. Tu as aussi participé à un fanzine donc, pour celles et ceux qui ont moins de 20 ans. C'était des petites éditions papier faites par des fans. Donc là, bon, surtout autour de la musique, mais pas seulement. Tu peux nous parler un peu de la période fanzine? Comment ça s'appelait déjà ce fanzine?
Ultrason. Oui, bah en fait, il y a eu un changement de municipalité à Arras et donc il y a eu ce qu'on appelle une réorganisation du secteur culturel à cette époque-là, qui n'a pas été forcément très simple pour les. Bah, moi, j'étais jeune, enfin j'étais même pas salarié, donc j'ai vécu ça un peu de loin. Mais bon, je sais que pour les personnes de l'époque, ça a été un peu violent. Mais au final, Patrice a su rebondir et en arrivant au théâtre d'Arras, il a réussi à retrouver un peu les libertés qu'il avait au Pharos. Et donc, un des projets, c'était de faire un fanzine. Donc, c'était un fanzine de luxe, comme je l'appelle, parce que on n'avait pas de photocopieuse. On avait le droit d'utiliser les fonds du théâtre pour faire imprimer ça. Et c'est à partir de là que la connexion avec PFM s'est faite un peu plus intensément, puisqu'on avait fait on avait plusieurs concerts en partenariat. Moi, je me rappelle de Dick Chestnut qui a annulé 3 fois. C'était un concert PFM et je pense que le concert n'a jamais eu lieu, quoi. Parce que, entre-temps, les problèmes de santé de Dick Chestnut ont toujours été un peu compliqués, quoi. Et au théâtre d'Arras, bah, Patrice, il a réussi à maintenir le cap et à proposer toujours des concerts un peu exigeants, quoi. Je ne sais pas si actuellement à Arras, il y a une activité culturelle aussi intense que ce que j'ai pu avoir. Bon, avec le confinement, le Covid, c'est un peu compliqué, mais bon, on a le même âge. On a eu la chance d'avoir une adolescence à Arras avec des concerts tous les 15 jours de qualité, quoi, et une programmation assez exigeante. Je sais pas s'il y a ça en ce moment, s'il y avait ça l'année dernière à Arras ou même à Lille, quoi. Je suis un peu déconnecté de la scène musicale, quoi, mais on a eu, en tant qu'adolescent à Arras, on a eu vraiment de la chance, quoi, d'avoir un gars qui programme des choses aussi, et une équipe derrière qui programme des choses aussi intéressantes.
Ouais, peut-être si on peut ajouter, c'est pas seulement une programmation hyper intéressante et pointue, c'est aussi des projets autour qui font que bah, les gens adhèrent, suivent et se retrouvent 20, 30 ans après encore dans les mêmes passions. C'est un truc important quoi. C'est pas le Main Square qui ramène. Je pense pas que le Main Square va amener des gens à devenir photographe ou radioteur ou quoi qu'est-ce quoi.
Ah ouais, je pense que oui, le lien autour, bah, ça se travaille sur le terrain, et puis c'est pas la notoriété du groupe qui va faire venir les gens dans les salles de spectacle, forcément. Ça se travaille en amont, et c'est un boulot qui demande du temps, de l'argent et de l'investissement, quoi. Et je ne sais pas si les grands festivals de ce genre-là sont capables de travailler sur le long terme, ce qu'il avait essayé de faire à Bourges, par exemple, qui avant, quand il était programmateur là-bas, avait une programmation un peu plus ouverte que ce qu'il peut y avoir maintenant.
Alors après la période arrageoise et après le printemps de Bourges, il s'est trouvé directeur Bud du côté du Grand Mix de Tourcoing, puis à l'aéronef à Lille. Toi, tu l'as accompagné aussi, tu as continué de travailler avec lui sur ses programmations?
Bah sur la partie Printemps de Bourges, pas du tout, mais on s'est retrouvé au Grand Mix quand il est devenu programmateur. Moi, j'avais un peu arrêté la photo cette période-là, et puis bah il m'a appelé à l'époque. Donc il y avait déjà Vincent et Julien que je connaissais en parallèle, et donc là j'ai recommencé à faire de la photo de concert. Bon, les concerts au Grand Mix, il y a eu tellement tellement de dates impressionnantes. Donc il y a eu Vichy Chestnut, il y a eu, je rappelle que bon, des concerts de Zizek, il y en avait un par an, mais bon, c'était un peu le rendez-vous incontournable pour Patrice. Et ensuite, oui, quand il est devenu directeur à l'aéronef, on a pas mal collaboré à l'époque pour essayer, bah, de donner une ligne éditoriale au site internet de l'aéronef et de mettre en place des ateliers. Bon, après, la conjecture à l'aéronef étant ce qu'elle est, c'était une période un peu compliquée pour lui, et puis voilà quoi.
Tu es toujours resté en contact et ami avec, avec Bud?
Ouais, alors on se voyait pas souvent parce que j'avais pas énormément de temps. On se voyait une fois par an. Après son départ de l'aéronef, on se voyait chez lui. Et quand il a quitté le Nord-Pas-de-Calais, moi j'étais déjà en Espagne. Bon, c'était, enfin, on n'a jamais eu le temps de se voir parce que c'est pas du tout ma route. Mais on se téléphonait régulièrement. La dernière fois que j'ai eu le téléphone, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ça avait l'air d'aller. En un quart d'heure, il est capable de te recadrer, de se foutre de ta gueule et en même temps de te donner un petit coup de boost. Donc c'était un de ses talents. Comme il aimait faire confiance aux gens, ben voilà, c'était toujours bien de l'appeler et puis d'avoir de ses nouvelles, quoi.
Quand on pense à Patrice Budzinski, on pense forcément à la musique. Alors, quelle serait un peu la, qu'est-ce que tu mettrais dans la playlist rêvée de d'hommage à Bud, Mathieu?
C'est vraiment très compliqué parce que je pense à la fois au groupe qu'on a découvert ensemble ou qui m'a fait découvrir. Par exemple, Right Eyes. Et en même temps, il y a des choses qu'il écoutait des fois qui étaient vraiment insupportables. Non, je vais pas parler de ça. Mais vraiment, bah, la partie hip-hop français qui m'a fait découvrir. Et je pense à Deux Balles de Nègre, par exemple. C'est un des albums et concerts qui m'a le plus marqué. Parce que tout le monde va, enfin tous ses proches vont citer la partie rock, mais en fait Patrice n'était pas si rock que ça, quoi. Il était plus bien branché hip-hop français, et on a tendance à un peu oublier ça, quoi.
Qu'il voulait s'éloigner, qu'il désirait fuir ses parents, ce monde qui ne le comprenait pas. Oui, il songeait à partir. Mon ami était prisonnier de son esprit. Une autre chose, en tout cas quelque chose. Un adolescent incompris. Son père était souvent la cause de ses soucis. Il n'appréciait pas que son unique enfant choisisse la musique comme hobby. Et dit, je te dis qu'il le traquait tous les soirs pour qu'il ne prenne pas le chemin des MC, mais étant noir, malheureusement. De plus, ayant une forte personnalité et n'aimant pas trop les... Il se pressait pour rentrer dans sa chambre et travailler avec acharnement. La musique et l'école, de temps en temps. Seigneur, pardonne-le, mais ses liens l'étreignent. Et crois-moi, il ne fait pas semblant. J'en ai encore les larmes aux yeux car je le comprends. Mon Shumoji également le comprend.
Les deux balles de nègre en 1996, choisi pour nous par Mathieu Drouet, qui évoquait son copain Patrice Budzinski, décédé lundi dernier. Patrice Budzinski, on va l'écouter maintenant, c'était en 2008, au moment où il devient directeur de l'aéronef à Lille. Il évoque ses années aragoises au micro de Jean et Guy de l'émission Tumulte sur Radio PFM.
C'est vrai qu'avant le Pharos, c'était avant tout un investissement sur un profil plus social dans les quartiers ouest qui m'avait amené à considérer effectivement la culture comme un vecteur pour travailler au mieux vivre ensemble. Donc mes premières armes effectivement sur de la programmation et sur un lieu de production de spectacle, c'était le Pharos.
C'est-à-dire qu'au départ, tu étais embauché par l'ADACOA, qui était l'association de développement...
C'est l'association de développement des quartiers ouest d'Arras, qui était en fait une structure associative adhérente de la fédération Léo Lagrange. Donc je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais à l'époque, effectivement, pour moi, c'était un tout démarrage de mon projet professionnel, parce que j'avais rencontré le responsable qui m'avait sollicité pour donner... des cours et faire de l'accueil de façon informelle dans les clubs qui étaient sur place. Et il y avait un gros projet de restructuration du DMJC et on avait commencé à expérimenter sur le quartier des projets à vocation culturelle, je pense notamment aux arts de la rue, où sur un mode participatif, les jeunes produisaient en fait une manifestation autour du Graphe avec en point de mire un concert. Donc ça, c'était vraiment les tout débuts pour moi, quoi.
Donc immédiatement, un mix entre l'action culturelle et l'action sociale.
Oui, en fait, le terreau, c'était ça. L'idée, c'était...
Au départ, tu es animateur socioculturel.
Mon profil, c'était animateur socioculturel. La grande chance que j'ai eue, c'est de pouvoir marier et faire combiner ma passion pour la musique avec cette dimension citoyenne qui m'habite encore aujourd'hui quand j'interviens sur mes différentes fonctions.
D'accord, alors le Pharos créé en fait, puisque auparavant c'était la maison des jeunes, le Pharos en tant que tel n'existait pas. C'est le Pharos créé en tant que salle de concert.
Enfin, en tout cas, travailler comme une identité d'une salle à part entière. C'était pas une MJC de plus qui de temps en temps faisait un petit moment festif. Nous, notre idée, c'était de créer une salle de spectacle qui allait désenclaver le quartier et rayonner au-delà des problématiques de territoire. Et voilà, l'idée, c'était aussi de travailler cet aspect symbolique qui permettrait de percevoir la cité et le quartier différemment qu'à travers la rubrique des faits divers.
Ouais, et de faire en sorte aussi que des gens viennent dans les quartiers ouest d'Arras, des gens qui n'y habitent pas, donc des gens par exemple du centre-ville, mais aussi de toute la région. Et on a vu effectivement sur les concerts du Pharos une arrivée massive et même, on peut dire, devenue habituelle.
Oui, en fait,
régulière dans les quartiers ouest.
L'enjeu, il était là et ça a été au-delà de nos espérances parce que les gens qui n'avaient pas d'a priori, c'était ceux qui venaient de loin parce que pour eux, voilà, ils venaient voir un concert qui était programmé. Je me rappelle, il y avait pas mal de Belges qui venaient voir parce qu'on avait une programmation très pointue sur des esthétiques comme ça de hardcore américain et bon, les gens, ils n'avaient pas d'a priori, ils venaient jusque là. Ce qui était vraiment, on a vu comme ça se modifier les comportements des habitants et même ceux du quartier qui se sont appropriés le projet, parce qu'autour de la salle gravitait tout un tas d'ateliers qui se servaient des spectacles comme matière première pour mener leurs actions. Je pense à l'atelier vidéo à l'époque ou l'atelier photo. Et on a vu aussi des jeunes se sentir valorisés par le fait que effectivement des artistes jouaient là et ils finissaient par dire bah voilà, j'habite le quartier du Pharos et non plus j'habite la résidence Saint-Paul.
Alors le Pharos, c'est combien d'années de programmation musicale et d'action culturelle et sociale sur le quartier ?
Bah, il y a eu tout un travail de préparation, enfin on peut pas parler de préfiguration parce que c'était surtout le projet de la maison des jeunes qui avait anticipé la création de la salle. Et après dans le fonctionnement, en fait, ça n'a duré que 3 ans.
Trois saisons
complètes. Ouais.
D'accord. Alors bon, pour remettre les choses en mémoire, quelques noms de formations qui sont venues dans la programmation.
C'est là qu'on doit sortir les noms qui font bomber le torse. Dans les plus connus, on a accueilli, parce que c'est d'actualité, c'est pour ça que j'en parle, il y a NTM qui était venu jouer sur la toute dernière saison. Là, on voit que ça remplit des Bercy, mais à l'époque, sur la tournée de Paris sur les bombes, on avait eu la chance de pouvoir saisir cette opportunité. On avait eu d'ailleurs faire un mariage avec le théâtre d'Arras, parce que économiquement, on n'avait pas le budget, nous, pour produire le concert d'NTM. On a eu aussi des artistes comme Edwin Collins.
Avant de parler de ça, NTM, quand même, signaler que ça a été un concert difficile parce que la nouvelle municipalité à l'époque remettait en cause ce concert. Enfin, il y avait une plainte des jeunesses du Front National, si je me souviens bien.
Non, mais je pense qu'effectivement, il y avait une espèce de tempo sur les choses telles qu'elles étaient arrivées qui a rendu la chose un peu cocasse. Et c'est effectivement, moi, quand j'ai dealé cette histoire de NTM, ça s'est fait juste avant les municipales et statutairement, l'association, le signataire, c'était le président de l'asso. C'était en fait le maire qui représentait. Donc c'est passé à l'émergement comme ça, sans forcément que le maire sache ce qui était le concert d'NTM. Il y a eu les élections entre dents et voilà, la responsabilité du maire était engagée. Et il y a eu sur cette tournée-là, dès le début, une polémique parce que NTM à Paris a tenu des propos à l'égard des policiers, enfin des renseignements généraux qui étaient dans la salle. Il y a eu une plainte pour incitation à l'émeute à l'égard de la police. Donc il y avait déjà un effet médiatique autour du groupe qui rendait les choses tendues. Et derrière ça, le FN local avait demandé effectivement à ce que le concert soit annulé. Et du coup, la presse quotidienne régionale s'était emparée du truc et avait demandé un peu à Monsieur le maire, sa position. C'était compliqué parce qu'effectivement...
C'était pas sous sa direction qui avait été décidé de la programmation.
Oui, et puis en plus, c'était difficile pour lui de mesurer un peu tous les paramètres, parce qu'en plus à l'époque c'était la période où il y avait l'histoire du sous-marin à Vitrolles, où la mairie avait été gagnée par le FN, et le premier acte symbolique qui avait été fait, c'était de murer cette salle de concert. Donc se désengager de ce concert d'NTM, c'était légitimer ce qui avait été fait à Vitrolles, c'était... donc voilà, et puis je pense qu'il y avait une peur panique sur les cultures urbaines, parce qu'il y avait eu tout un tas d'événements, d'émeutes, qui effectivement, faut pas oublier qu'un maire c'est le premier magistrat d'une ville, et que on a eu quand même des échauffourées sur les quartiers qui pouvaient laisser penser que la situation ne serait pas maîtrisable.
Et en fait, ça s'est passé.
Moi, je me suis retrouvé quand même avec tous les acteurs de cet épisode-là pour devoir expliquer comment j'envisageais la prod. C'est vrai que sur quel que soit le concert de rap, on renforce toujours un peu la sécurité, parce qu'il y a une vraie pression à l'entrée sur le resquillage ou certains comportements. Mais le travail du Pharos, enfin, on était tellement ancré dans les cités. Moi, j'étais en capacité quasiment de citer tous les noms des gamins qui étaient venus se présenter à l'entrée du Pharos, quoi. Mmh. C'était une jolie.
C'était la troisième année du Pharos, c'est ça?
C'était la troisième année du Pharos, mais moi, ça faisait déjà 9 ans que j'étais sur le terrain. Donc, les gars, à la sortie, j'aurais dit, bon, traverser dans les clous, faites rien pour provoquer, parce que quand j'étais chercher Joe Star à l'hôtel, je suis revenu, je suis passé derrière. En fait, je me suis aperçu qu'il y avait eu un plan rouge qui a été mis en place avec le préfet et monsieur le maire, et il y avait quasiment autant de CRS que de spectateurs. C'était bon, c'est bien. Enfin, comme expérience, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, quoi.
Alors quelques autres noms.
On a eu Edwin Collins. Ouais. Qui était le membre fondateur des Orange Juice, qui était venu à l'époque de son single Girls Like You. On a eu aussi toute la scène des groupes alternatifs du Do It Yourself, du label Discord. Donc le plus emblématique est Fugazi, mais des groupes comme Girls Against Boy. On a eu aussi Trusty, on a eu Joe Box. On a eu aussi des petites gloires du rock français, de la période du label Closer, comme les City Kids, qui ont été un des premiers groupes à jouer au Pharos. Toute la vague du son writing et des choses de chez Guitar House, comme Larry Barrett, V-Chestnut. Je dois en oublier certainement, hein, mais si j'ai pas refait mon abécédaire avant d'arriver. Voilà un peu de mémoire. On a eu aussi des projets émergents. Je me rappelle, on était les premiers à faire Asiandum Foundation au Pharos. On a eu aussi des projets avec Radio PFM aussi, où on avait fait des Forget Me Not. Puis tout un tas aussi de projets régionaux, parce qu'on avait toujours une politique pour mettre un groupe en première partie qui soit du coin. Donc je dois en oublier, aidez-moi, hein, parce que je pense que vous étiez très présents aussi à l'époque.
On n'a pas tous les noms en tête comme ça. Bon, en tout cas, ensuite...
Les Walkabouts, on a eu quelques groupes aussi du label Sub Pop qui a fêté ses 20 ans, c'est le label qui avait signé Nirvana à l'époque.
Alors ce qu'il y a, c'est que les noms, on confond aussi avec la période suivante où le Pharos, c'est pas le Pharos, la programmation du Pharos, la programmation musicale au Pharos qui était faite par toi comme salarié de la Dacoa. Cette programmation se termine et tu deviens salarié du théâtre et fais la programmation musicale actuelle.
Que je fais du très bon travail, mais qu'il faut que j'aille le faire ailleurs.
Donc tu vas le faire ailleurs.
Je le fais ailleurs. Mais bon, j'ai compris quand même qu'il y avait une page qui se tournait, parce que peu de temps après, où j'ai intégré l'équipe du théâtre d'Arras, il y a une équipe municipale qui est venue, qui a démonté le bar du Pharos. Donc j'ai compris que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Il y a des symboliques comme ça qui parlent.
Et un baby-foot installé, je crois.
Et un baby-foot. Et donc voilà. Mais bon, on a continué effectivement à faire semblant d'eux, et on a fait les Blondes Redhead, on a fait Giant Sand, on a fait Sergent Garcia. Enfin, on a fait
ZX.
ZX, tout à fait. Ouais. ZX. Ouais, c'est ça depuis.
Ouais, il attendait que ça. Hein.
ZX, et puis après, j'ai commencé aussi à essayer d'intégrer en fait ces cultures musicales émergentes dans le théâtre. Hein. Même sur des choses pointues qui auraient eu leur place au Pharos, on a essayé de les faire entrer un peu comme ça au forceps dans le cadre théâtre. Du théâtre à l'italienne.
Alors on avait.
Divine Comedy.
Voilà, j'allais dire Divine Comedy.
Qui se portait très bien, parce que c'était un album qui s'appelait Casanova. Mm-hmm. Qui était un peu comme ça, très proche de l'univers architectural du lieu, donc c'était plutôt bien.
Un concert qui est resté dans les mémoires, très beau concert. Ouais.
Enfin, moi aussi, mais pour d'autres raisons, parce qu'ils nous ont pourri l'éloge avant de partir. Mais des choses aussi depuis qui ont un peu fait parler la poudre, comme Pinback, qui est devenue une référence en indie pop américaine. On a aussi les frères Asher, leur première date en France. C'est les membres de No Twist qui ont joué à la salle de concert. Des choses comme Joseph Arthur aussi. Mm-hmm. Les No Twist, c'est quand même le groupe emblématique de chez More Music, de l'électropop allemande. Et depuis, avec l'album Neon Golden, ils ont vraiment explosé. C'était plutôt bien, quoi. On a essayé encore de faire en sorte qu'effectivement à Arras il se passe des choses, même si c'était un peu plus compliqué à mettre en place.
Patrice Budzinski au micro de Jean et Guy de l'émission Tumulte sur Radio PFM. C'était en octobre 2008. Patrice Budzinski, ancien programmateur musiques actuelles au Pharos, au Théâtre d'Arras, ancien directeur du Grand Mix à Tourcoing et de l'Aéronef à Lille. Bye bye Bud. The potential you'll be that you'll never see, the promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay, and drive them away, stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars, kiss you again between the bars where I'm seeing you there with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time and I'll make you mine, keep you apart deep in my heart, separate from the rest. You the best, and keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still.